talmudique. L'histoire est connue et elle est racontée par Georges Perec dans son petit livre intitulé « Ellis Island ». On conseilla à un vieux juif russe de se choisir un nom bien américain que les autorités d'état civil n'auraient pas de mal à transcrire. Il demanda conseil à un employé de la salle des bagages qui lui proposa Rockefeller. Le vieux juif répète plusieurs fois de suite « Rockefeller, Rockefeller » pour être sûr de ne pas l'oublier. Mais lorsque plusieurs heures plus tard, l'officier d'état civil lui demande son nom, il l'a oublié et répond en yiddish « Sean Ferguson », c'est-à-dire « j'ai déjà oublié ». Et c'est ainsi qu'il fut inscrit sous le nom bien américain de John Ferguson. On connaît moins l'histoire de ce jeune Samuel qui arrive lui aussi à Ellis Island en 1901. Ne parlant pas un mot d'anglais, il ne comprend pas la question de l'officier de l'immigration qui lui demande son nom. Pensant qu'on lui demande d'où il vient, il répond alors « Odessa » et le fonctionnaire inscrit dans son registre plus ou moins ce qu'il entend. C'est ainsi que Samuel Dassin, père de Jules Dassin et grand-père de Joe Dassin, fit son entrée en Amérique. Bonjour Isabelle Némirovski.
Bonjour Marc-Alain Wacknin.
Cette histoire paradigmatique de l'entrée de Samuel Dassin en Amérique est racontée dans votre livre intitulé « Histoire, mémoire et représentation des Juifs d'Odessa », sous-titré « Un vieux rêve intime » aux éditions Honoré Champion. Odessa, ville chatoyante des cultures et des arts, qui participe à la parée de mystères et dont nous avons exploré la semaine dernière une histoire où tout commence toujours par des légendes, malgré son statut de ville nouvelle et sa fondation en 1794 par Catherine II de Russie. Tout s'y mêle dans un art unique du mélange auquel les Juifs, qui ont longtemps représenté un tiers de la population, ont grandement contribué. Mais les événements tragiques qui l'ont traversé au XXe siècle et à la fin du XIXe siècle ont conduit bon nombre de ses habitants et la quasi-totalité de sa population juive à l'exil, constituant dans de nombreux pays une diaspora qui transmet la nostalgie d'Odessa de génération en génération. Avant de parler des héritiers d'Odessa, ceux d'aujourd'hui, dont vous faites partie, Isabelle Némirovski, revenons sur les États-Unis, qui furent l'une des destinations majeures des Odessites dès la fin du XIXe siècle. Comme il y a York en Angleterre et New York aux États-Unis, il y a Odessa au bord de la mer Noire, New Odessa dans l'Oregon. Comment, Isabelle Némirovski, fut fondée cette nouvelle Odessa ?
C'est d'abord l'histoire d'une carte, c'est aussi l'histoire d'une carte d'Amérique du Nord où j'ai vu inscrites 11 villes. Et donc je me suis déjà posé la question, existe-t-il une autre ville au monde qui ait autant de greffes dans d'autres pays ? Donc après j'ai regardé plus attentivement chaque greffe et en particulier cette colonie agricole, une sorte de kibboutz où de jeunes idéalistes, utopistes, qui ont fui les pogroms de la ville d'Odessa, se sont regroupés pour créer une espèce de vie idéale. Ils l'ont baptisé New Odessa. Ils y travaillaient le bois. C'est une entreprise qui a été menée pendant pas très longtemps. Je crois que c'est elle a duré 5 ans. Il y avait une 60aine de membres, mais il y a eu un incendie qui a tout dévasté. Et donc chacun est reparti sur d'autres conquêtes, cette expérience n'ayant pas abouti. Et j'aimerais reparler des voies de migration d'Odessa. En fait, il n'y a pas eu énormément de Juifs d'Odessa qui sont partis en Israël. Le nombre le plus important s'est dirigé vers l'Amérique. En France, il y a aussi, c'est l'histoire de ma famille, c'est plus un chiffre qui est un peu plus confidentiel, un petit peu plus anecdotique. Ils sont arrivés à Paris et ils ont fini par rester là parce qu'ils ont retrouvé un ami, un membre d'une famille et donc ceux-là sont restés à Paris. Mais donc en Amérique du Nord, il y a eu ces 11 villes qui ont été créées et donc cette colonie agricole, effectivement New Odessa, créée par des utopistes.
Alors il n'y a pas eu que l'Oregon avec son New Odessa qui possède cette ville qui porte ce nom, cette greffe dont vous parlez. Vous en relevez 10 autres, mais il y en a une plus connue dans le Texas qui se voit dotée du même nom. C'est un phénomène étrange. Qu'est-ce qui a poussé toutes ces nouvelles villes à s'appeler Odessa ?
Eh bien là, par exemple, il y a la ville du Texas qui s'appelle Odessa, et ce sont des cheminots qui travaillaient sur l'extension d'une ligne de chemin de fer, qui trouvaient que cet endroit leur rappelait leur Russie. Mais une grande imagination. J'ai appelé un chercheur américain qui travaille au Texas et qui m'a dit, écoutez, c'est peut-être l'idée du désert. À l'origine, Odessa était un désert, mais aussi l'idée que... étant donné qu'il y avait une extension de ligne de chemin de fer, il y allait avoir des projets immobiliers, et que l'idée d'Odessa et de l'opulence qu'elle avait générée était très vendeur pour des projets immobiliers.
Alors, Odessa, la plus grande dans les cœurs, et celle appelée la petite, c'est Little Odessa, le quartier du sud de Brooklyn qui borde l'océan, qui s'appelle Brighton Beach. Dans son livre qui s'appelle Odessa, splendeur et tragédie d'une cité de rêve, Charles King, que vous citez, écrit « À Odessa, tout y respire l'Europe », et écrit Pouchkine, qu'il cite « À Brighton Beach, tout y respire Odessa ». Isabelle Nemirovski, comment vous commentez cette petite phrase de Charles King?
Little Odessa est un microcosme. Quand on arrive par le métro et que l'on débarque sur le quai de Brighton Beach, on a des senteurs, on a des impressions fugaces, on a la vision, je dis toujours, ce qui m'a beaucoup marqué quand je suis descendue sur le quai, c'est que j'ai aperçu au loin une très grande menorah dans un recoin, alors qu'il n'y a pas de véritable signe lisible dans cette enclave, comme à Odessa, c'est-à-dire qu'on ne repère pas le côté juif de la ville, une fois encore, dans cet endroit. Comme si il y avait ce désir de préserver cet endroit et qu'il n'y soit accessible que par les initiés. Et donc, vous avez quelques caractères cyrilliques sur les devantures de magasins. Vous ne pouvez pas demander quoi que ce soit dans un des magasins sans parler russe. Il y a quelques mentions cachères sur les magasins d'alimentation, mais surtout il y a ce bord de mer, cette longue balade au bord de la mer qui fait effectivement penser au littoral d'Odessa et où viennent des exilés, des juifs d'Odessa, viennent jouer aux échecs ou viennent tout simplement s'installer sur des bancs, discuter avec leurs corréligionnaires et amis de leur passé odessite, de leur amour d'Odessa. Et ces personnes-là, vous pouvez les aborder. J'ai essayé de leur... Le sésame, c'est Odessa. Si vous dites que vous aimez Odessa et que vous êtes d'Odessa, il vous ouvre la porte.
Mais on imagine aujourd'hui que ceux qui viennent s'asseoir sur ces bancs sont les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des immigrés dont on a parlé, ceux de 1901, comme ce Samuel Dassin. Aujourd'hui, on est dans la 3, 4, 5e, 6e génération après. Ils sont toujours fascinés par Odessa, c'est-à-dire que la passion d'Odessa se transmet, s'hérite de génération en génération.
Oui, elle s'hérite de génération en génération, même si la jeunesse commence à s'exiler vers, retourner plutôt vers Manhattan, et laisse un petit peu leurs aïeux continuer tranquillement leur rêverie. C'est un petit peu Sylvie Veil, romancière, qui habite de ce côté-là et qui fréquente vraiment Brighton Beach. Je me disais qu'elle commençait à être un petit peu triste de voir que ce rêve est en train de s'effilocher. Mais il y a toujours, vous savez, cette idée du pintele, du petit point, de cette judaïté qui jamais ne, et en tout cas de cette judaïté odessite, qui jamais ne disparaît, qui finit par reprendre de la vigueur.
Alors, il faut trouver le petit point, mais traversons, si vous voulez, d'abord l'océan vers l'autre destination privilégiée des odessites de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, l'autre terre promise, Israël, qui à cette époque s'appelait la Palestine ottomane ou plus tard mandataire. Deux villes vont être rêvées comme petite Odessa, qu'on appelle en hébreu Odessa Akhtana, Ashdod et Tel Aviv. Je dis rêvées car la ressemblance entre ces villes filles et Odessa mère n'a peut-être existé que dans l'imaginaire de certains odessites en quête d'apaiser la douleur de la nostalgie par laquelle ils étaient traversés. Je pense bien sûr à Bialik, et Dizengoff et Schenkin. Aujourd'hui, ce sont des noms de rues et d'avenues célèbres, mais qui furent d'abord le nom de personnalités originaires d'Odessa, Isabelle Nemirovski.
Oui, absolument. Et je pense surtout à Chaim Narman Bialik, dont parle Ryan Ben David dans son très beau livre sur ce poète du renouveau de la langue hébraïque, et où elle parle de Bialik qui se promène sur le long de la mer une fois encore et qui s'adonne à sa rêverie odessite aussi. Et pourquoi cet endroit? Parce qu'il avait l'impression que ça lui rappelait, même si l'endroit ne rappelle pas, il y a toujours cette projection qui se fait, ce désir de retrouver cette terre perdue en permanence chez les odessites.
C'est-à-dire qu'il suffit d'un bord de mer avec une promenade pour avoir l'impression de se retrouver à Odessa.
On se retrouve à Odessa, mais on y laisse de nouvelles empreintes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Tel Aviv, j'ai fait une comparaison entre Odessa et Tel Aviv. Et je pense que l'ébullition, l'effervescence de la ville d'Odessa se retrouve dans la ville de Tel Aviv, avec ses nombreux cafés, ses théâtres, son caractère festif, qui ressemble particulièrement à la ville d'Odessa.
Et la centralité de l'opéra
de Tel Aviv. Et la centralité, exactement.
Et si aujourd'hui on entend, bien que Odessa, bien sûr, soit en Ukraine, si on entend parler beaucoup le russe à Tel Aviv, cela ajoute à cet onirisme odessite.
Oui, la saveur odessite.
In der Scheiner steht der, o die Welt gar nicht gesehen, in der Weisnit, im Progress. Wo's mir bin, in Bus Paris, blotte Häusig, kein Vergleich, nur Ades, o dort nicht, a Ganeid, Ой, Одесса, мама, без мечтаяр, коншит, ой, Одесса, мама, волдит бенкнопи. Ой, Одесса, мама, вертен бит парнет, вер, ой, Одесса, мама, ир бенкнопи не швер. Вер вейш во свисти ворум финирье, Одесса, Одесса, и бенкнопи.
Lisa n'embarque en papier dans le grand bassin bleu. Tes premiers pinceaux de noix pour les yeux. Tu disais souvent, on vivra ailleurs. Je courais me cacher quand je voulais que tu pleures. Quelques hommes jouent encore comme des enfants cruels. Ce soir, Odessa s'endort sous le ciel. Lisa, c'est partout les mêmes, les fumées des avions. T'es juste du mauvais côté de l'horizon. Les seuls trains qui partent sont des trains de banlieue. T'as beau tendre tes mains, y'a tout ce vide au milieu. Et tes chansons retombent au piano des hôtels. Pendant qu'Odessa s'endort sous le ciel,
Isabelle Nemirovski, vous devez être surprise du grand écart que je vous propose ce matin. Odessa Mama, une chanson classique, traditionnelle sur la ville d'Odessa qui représente la mer et cette chanson de Cabrel qui s'appelle Lisa où par trois fois il évoque la ville d'Odessa. Nous aurions pu écouter aussi les Bee Gees dont l'album de 1969 s'intitule sobrement Odessa. On aurait pu écouter des chanteuses, des chanteurs dont les parents, grands-parents viennent d'Odessa, Bob Dylan, Mort Schumann et sa très belle chanson Brooklyn by the Sea, Serge Gainsbourg ou encore Michel Polnareff. C'est pas connu et c'est intéressant parce que ça dit beaucoup sur cette passion de la musique dont vous avez parlé la semaine dernière. Et on sent que si on est passé par Odessa, la musique nous rattrape toujours. Une façon de se demander, Isabelle Niemirovski, qu'est-ce qui fascine tant dans cette ville et à tant d'années d'écart, juifs et non-juifs?
Ces mélodies lancinantes de la nostalgie odessite parlent d'un paradis perdu. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir fait découvrir cette chanson de Cabrel qui est tout à fait intéressante d'un point de vue poétique, mais aussi énigmatique. Lorsque je suis partie à Odessa la première fois pour mes recherches, mon amie artiste peintre Anne Gorouben, qui a été la première artiste ici en France à travailler sur Odessa, elle a fait des magnifiques peintures que d'ailleurs on devrait essayer d'exposer un de ces jours prochains, m'a dit « Écoute, je ne peux pas partir avec toi, je n'en ai pas la possibilité, la seule chose que je te demande, ramène-moi de la variétoche d'Odessa ». Alors j'ai dit « C'est quoi ta variétoche ?» Elle me dit « Tu verras, ce sont des chansons qui sont pas très compliquées d'un point de vue de la musicalité, etc. mais qui est comme cette musique entêtante qu'on entend partout dans la ville. » Et j'ai effectivement ramené ce disque, je l'ai même acheté pour moi et je l'ai passé presque en boucle quand j'avais mes enfants qui étaient petits derrière la voiture, qui n'en pouvaient plus d'écouter. Et en fait, ces chansons sont une des plus fortes expressions de la nostalgie. Il y a toujours question d'un juif, d'un Rabinovitch, du climat, de la douceur de vivre, de la liberté, de cette possibilité de raconter des histoires. Odessa, c'est ça aussi, c'est un livre d'histoire. Et d'ailleurs, elle est plus qu'un livre d'histoire avec un grand H, elle est un livre de petites histoires et de légendes. Et ça s'exprime très très bien aussi au travers des chansons qui ont des mélodies comme ça aussi en mineur, ton mineur. On m'expliquait en musique que le ton mineur, quand on marche, pour faire une association, donner une image, c'est quand on marche, on a le pied qui se lève. Le ton majeur, c'est le pied qui retombe. Et j'aime cette idée du pied, du mouvement d'une part, mais du pied qui se lève, mais qui n'est pas encore retombé. Voilà, donc cette variété... comme on peut l'entendre communément, mais c'est aussi l'idée de quelque chose de varié. Et le cosmopolitisme, même la musique, elle a ses expressions très diverses. Elle peut être classique, elle peut être klezmer aussi.
Alors on l'a bien entendu dans le chant de Odessa Mama aussi, on passe du majeur au mineur, de ce pied levé, qui donne d'ailleurs tout simplement envie de danser. Alors cette passion pour Odessa, outre la thèse que vous lui avez consacrée, et dont est issu votre livre, a débouché sur la création d'une association en 2018, les Amis d'Odessa, association très dynamique sous le marrainage, comme on dit, d'Elisabeth de Fontenay, dont la mère est née à Odessa, qui dit dans son discours lors de la création de l'association « Nous sommes héritiers en même temps, et à Odessa, justement, cet « en même temps » n'a rien de paradoxal, héritier à la fois du scepticisme, de l'athéisme, du cosmopolitisme, du banditisme, de la passion de l'assimilation et des mariages mixtes, des ligues de défense juive, du sionisme culturel, du Bund et du sionisme qui construira l'État d'Israël. Nous avons donc recueilli un très riche chaos. En quoi, ma question, l'héritage de ce chaos est structurant pour vous aujourd'hui ? Isabelle Niemirovski, hériter le chaos, c'est pas rien.
Ah, c'est pas rien d'hériter du chaos, surtout quand on veut essayer d'y remettre de l'ordre. Mais quel est mon ordre à moi? En fait, mon ordre à moi, c'est l'ouverture, c'est la richesse, c'est la possibilité de sortir du cadre. La ville d'Odessa a été construite comme un damier, mais elle n'a pas pu rester dans ce cadre-là. elle s'est étendue. Les faubourgs sont partis un petit peu dans tous les sens. Il n'y a plus d'ordre. Mais Odessa est restée Odessa. Et d'ailleurs, même ces extensions, ces excroissances, pourrait-on dire, ont généré la Moldavanka. Et la Moldavanka, les contes d'Odessa avec toutes ses couleurs. Voilà. Là encore, cette juxtaposition de différentes facettes qui nous donne un visage très riche, très varié et entêtant. Une image qui reste...
C'est le klezmer et Cabrel en même temps.
C'est klezmer et Cabrel en même temps, voilà. Effectivement.
Alors, le logo que vous avez choisi pour votre association est très sobre et presque intrigant. Le dessin d'un arbre, que représente-t-il cet arbre au-delà d'une préoccupation écologique légitime par les temps qui courent? Quel rêve porte-t-il cet arbre et à quel imaginaire ouvre-t-il Isabelle Nemirovski?
Il porte des rêves, le rêve d'éternité, puisque l'arbre qui est dessiné est s'est voulu être une représentation d'un acacia, dont on sait que le bois est imputrescible et qui donc nous parle d'éternité. Et puis l'arbre, parce que l'arbre, les racines, mes racines et les branches les branches vers le ciel avec cette idée d'espoir.
Mais c'est surtout un arbre qui est très très présent à Odessa.
Aussi, bien sûr, l'acacia, effectivement, on n'en a pas parlé, c'est l'arbre emblématique de la ville.
Oui.
Il a été importé d'Italie, il a été soigné tout simplement par le duc de Richelieu, dont la petite histoire, parce qu'il y a toujours une petite histoire à chaque événement, paraît-il, arroser les plants quotidiennement pour s'assurer qu'ils poussent normalement.
Et alors, c'est aussi... un arbre qui donne une fragrance entêtante au printemps.
Oui, et ça participe aussi à cette nostalgie absolument très prégnante chez les Juifs d'Odessa. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse à propos de cette nostalgie et de ces extensions et de ces greffes mémorielles. Il y a aujourd'hui un club mondial des Odessites dont le slogan est « Odessites de tous les pays, unissez-vous ». Donc moi, c'est un petit peu mon club mondial des Odessites à Paris, rue Saint-Anastase dans le Marais, où j'essaye de retrouver tous ces Odessites disparus.
Et tous les amis.
Et tous
C'est-à-dire
les amis.
Qu'on peut être
bien sûr.
Parisien
et, bien sûr.
Et amis d'Odessite. Alors l'Ukraine est en guerre aujourd'hui et Odessa est au centre des préoccupations politiques et économiques qui concernent le monde entier. L'approvisionnement en blé et en matières premières dépendent du bon fonctionnement du port et de la liberté d'entrée et de sortir des marchandises. Êtes-vous, Isabelle Nemirovski, particulièrement inquiète pour l'Odessa d'aujourd'hui? Et qu'en disent les Odessites que vous avez rencontrés récemment?
Alors j'ai hérité, je pense, d'un optimisme à toute épreuve, c'est-à-dire que les Odessites ont traversé des épreuves terribles durant l'histoire du XXe siècle et se sont toujours relevés. J'ai donc hérité de cet optimisme et aujourd'hui encore dans les rues d'Odessa, quand des Odessites sont interrogés, ils disent « nous sommes protégés ». Le Rav Avrum Wolf, qui a été missionné par le mouvement Rabad à Odessa pour relever cette communauté après la Seconde Guerre mondiale, dit d'ailleurs que ce sont des diamants qu'il a polis. Lui aussi d'un grand optimisme. Il savait qu'il avait une certaine protection, mais il a quand même assuré le côté raisonnable, à savoir de protéger ses fidèles, et en particulier les orphelins de son orphelinat, puisqu'il a monté un orphelinat, qu'il a emmené à Berlin, ironie de l'histoire, pour pouvoir les mettre à l'abri de la guerre en Ukraine.
Et vous parlez donc de ce rabbin Wolf, qui est rabbin actuellement en Ukraine. Quel est l'état de la communauté juive ? Aujourd'hui, jadis, Odessa passait pour la capitale du monde juif. Il reste 3 synagogues, on en comptait 70 dans les années 20, quand Isaac Babel écrivait ses contes d'Odessa. Et aujourd'hui, qu'en est-il de cette communauté juive?
Elle s'est relevée, comme je disais, grâce aux soins de Avrum Wolf. Elle est très dynamique, la jeunesse est très impliquée aussi dans l'histoire du passé juif. La ville est autonome, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à importer de produits cachers. Elle a toutes les infrastructures pour avoir une vie juive pleine.
Oui.
Pleine et entière.
Et combien de juifs aujourd'hui?
Et aujourd'hui, il y a 40 000 juifs à Odessa.
40 000 juifs.
Oui, c'est la plus importante communauté juive d'Ukraine. Kiev en a 60 000, mais par rapport au rapport population, la population est d'un million à Odessa et la population de Kiev est de 2 millions. Elle a repris son souffle et plus encore.
Odessa est une ville où la fiction et le réel sont inextricablement liées, nécessitant pour l'observateur un aller-retour incessant entre ces deux piliers essentiels à sa compréhension. S'il existe des bribes de vérité dans le mythe d'Hésite, il existe de la même manière des bribes de légende dans sa réalité, car ils se nourrissent mutuellement. Ainsi, à Odessa, il y a deux musées importants, pour vous. Il y en a plus, mais pour vous, il y en a deux importants dont vous aimez souligner l'existence, le musée d'histoire des Juifs d'Odessa et le musée de la littérature, Isabelle Nimirovski.
Ça représente peut-être les deux piliers disciplinaires de ma thèse, à savoir l'histoire, les faits, j'y raconte, j'ai étudié les archives, j'ai un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, et puis ce musée de la littérature qui m'a permis de découvrir tous ces auteurs. Plus de 300 auteurs sont répertoriés dans ce musée. Et rares sont les villes dans le monde qui ont un musée de la littérature. Et ce musée de la littérature, c'était la Literaturka, de où allait Vladimir Jabotinsky lorsqu'il y avait des concerts donnés, des lectures de textes. Et on peut retrouver aujourd'hui dans ce musée des journaux, des manuscrits et toute cette vie littéraire. Et la littérature a été, même si la musique est vraiment essentielle, il y a cette autre expression, cet autre langage qu'est la littérature qui m'a permis de comprendre l'invisibilité et le génie des lieux.
Quand on parle de littérature, c'est pas littérature juive, c'est la littérature en général.
Oui, la littérature en général, même si elle est en proportion assez importante par rapport à la littérature en général.
Et votre cœur semble balancé entre ces deux musées, Isabelle Nimirovski, et à vous lire et à vous entendre, on a l'impression qu'au fond, Odessa est le lieu de l'expérience de l'entre-deux. Vous en avez déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Un entre-deux entre la réalité et le rêve, la réalité et la fiction, la littérature et l'histoire, vous venez d'en parler. Et c'est un entre-deux et un en même temps, comme dit Elisabeth de Frontenay.
Oui, c'est un entre-deux et un en même temps. Et j'aime bien me situer dans ce petit espace, parce que c'est un petit espace qui est aussi hors cadre. Or, je suis claustrophobe, vous allez me dire que vous ne voyez pas le rapport, mais en fait, je suis claustrophobe aussi de la pensée. C'est-à-dire que je ne supporte pas qu'on me répète la même chose, il faut toujours que j'aille de l'avant. J'ai une curiosité qui n'est jamais assouvie, et je passe des heures et des heures à lire, mais ça n'a rien d'une prouesse, c'est juste une curiosité. À Odessa, il y avait quand même cette expression racidique pour les Juifs, il y avait aussi ces orthodoxes, mais il y avait aussi ce judaïsme renouvelé, réformé. La littérature ne se faisait pas qu'en langue russe, ni qu'en yiddish, ni qu'en hébreu, ni qu'en italien, ni qu'en... Il y avait 500 journaux, par exemple, dans la ville, 500 journaux, alors que la presse était interdite, la presse juive aussi, alors pas que 500 journaux juifs, mais la presse juive en particulier était interdite dans le reste de l'Empire. C'est une ville qui ne s'enferme jamais dans une catégorisation. Et c'est ça qui aujourd'hui me plaît, c'est en fait l'ouverture à 360 degrés.
Brooklyn by the sea, dimanche après-midi, c'est une vieille promenade sur de longues planches malades, c'est la mer Noire en petit. Tout le long de Brighton Beach, à Brooklyn by the sea. Brooklyn by the sea, les vieillards assis se racontent les histoires, les défaites et les vieilles gloires, les exodes et les fusils. Quand ils étaient loin d'ici, de Brooklyn by the sea.
Merci Isabelle Nimirovski pour ces deux semaines de conversation autour du rêve d'Odessa. C'était absolument passionnant et nous a donné à tous l'envie non seulement de découvrir la réalité de cette ville, mais aussi toute la littérature, la poésie, la musique et toutes les productions dont elle a été et reste la muse. Cette ville, comme dit Nina Gurfinkel, où il y a toujours quelque chose au-delà et au-dessa, Odessa, selon un jeu de mots en français datant de l'époque de son fondateur, le duc de Richelieu, et à défaut de pouvoir la visiter sereinement et prochainement à cause de la guerre, les auditeurs pourront lire votre très beau livre, dont je rappelle le titre, Histoire, mémoire et représentation des Juifs d'Odessa, sous-titré Un vieux rêve intime, aux éditions Honoré Champion. Et ils pourront aussi visiter le site très riche et très dynamique de l'Association des Amis d'Odessa, et aussi pour commencer, comme vous l'avez fait vous-même, se plonger dans la lecture du petit livre de Sandrine Trainer, que vous avez dit être un grand livre, intitulé « Le goût d'Odessa » paru déjà en 2005. Merci encore Isabelle Nemirovski.
Merci Marc-Alain Wacklin de m'avoir invité.
C'était un grand plaisir et c'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Marie Le Peintre, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site des France Culture à l'onglet Talmudique, sur lequel vous pouvez podcaster l'émission pour l'écouter ou la réécouter à votre guise. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.
Brooklyn by the sea, on raconte sa vie. For the Spartacus Brigade, yes, Madrid was wonderful. Les survivants sont assis. Tout le long de Brighton Beach. Dans un taxi, cette race va disparaître.